Et je vous invite ce soir à entendre parler des miracles de Jésus. En ouvrant la parole de Dieu dans Matthieu 8. Au verset 1er. Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. » Le contexte, c'est juste après le sermon sur la montagne. Et alors qu'après avoir prononcé ces merveilleuses paroles, Jésus est en train de redescendre de la montagne, une grande foule va le suivre. Alors certainement que dans la foule qui était là, vous aviez beaucoup de gens qui avaient entendu le sermon sur la montagne, qui avaient entendu les paroles de Jésus. Et la scène que vous trouvez là dans les évangiles, elle est profondément inhabituelle. Parce que normalement, si Jésus était suivi par une foule, il n'aurait jamais dû rencontrer un lépreux. Parce que un lépreux ne se serait normalement jamais manifesté parce que, figurez-vous, il est contagieux. Alors, je ne l'ai pas fait exprès de choisir cette parabole ce soir, mais en même temps, j'ai trouvé quand même qu'elle était assez d'actualité, n'est-ce pas ? La lèpre est une maladie extrêmement contagieuse. Donc, normalement, c'est un homme qui aurait dû rester à l'écart de la foule. Il n'aurait pas dû se trouver avec Jésus alors qu'il y avait une foule qui le suivait. C'est vraiment quelque chose de très étonnant, parce que cet homme, la foule, elle aurait été en droit de le lapider, de le tuer avec des pierres, etc., voyez-vous, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit du tout de faire ça. Alors ce que je souhaite avec vous ce soir, bien évidemment, eh bien, c'est de regarder, pas seulement le miracle, mais bien sûr, c'est la signification spirituelle pour nous qui sommes au Seigneur de ce miracle. Mais en fin de compte, cet homme, il va se présenter devant Jésus, permettez-moi de vous dire quand même, avec une parole formidable. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, Jésus entend cette parole et aussitôt il lui répond, « Je le veux, sois pur. » Et cet homme, instantanément, est purifié de sa lèpre. Alors, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, il y a différentes choses à savoir, à aborder en ce qui concerne la lèpre dans la Bible. Tout d'abord, la lèpre, c'est un symbole du péché. C'est un symbole de jugement, mais dans le sens de punition. Donc, la lèpre, c'est une maladie toute particulière parce que ça commence par une tache sur la peau. Donc quelque chose qui peut paraître tout à fait insignifiant. Et en fin de compte, ça finit par corrompre le corps tout entier. Et c'est absolument terrible. Moi, il m'est arrivé dans mes voyages de rencontrer des lépreux, parce qu'en fin de compte, les lépreux, souvent ça touche les extrémités, hein, d'abord les mains, les pieds, etc., et ils perdent toute sensibilité. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils se blessent, ils se font mal, ils s'en rendent même pas compte, donc ça s'infecte, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et c'est le symbole du péché, parce que, bien, en fin de compte, ça commence par quelque chose de petit, quelque chose qui peut paraître comme insignifiant, mais qui finit, en fin de compte, par gagner l'être tout entier. Et vous savez bien que c'est souvent la conception du péché dans le cœur de l'homme. Il y a des gens, ils vont commettre des péchés, mais ils ont tendance à dire c'est pas grave. Ils vont avoir tendance à dire tout le monde le fait. Voyez-vous, sans réaliser, en fin de compte, véritablement, quelles vont être dans leur vie les conséquences du péché. Avec le péché, le temps n'arrange rien. Mais au contraire, plus on attend, pire c'est. Et vous avez beaucoup de gens qui pensent que des gens vont s'améliorer. Mais en fin de compte, quand le problème c'est le péché, ben, si le péché n'est pas purifié par le sang de Jésus, la situation ne s'améliore pas. Bien au contraire, elle va aller qu'en empirant. Et c'est comme ça pour la lèpre, et c'est comme ça pour le péché dans le cœur de l'homme, parce que un péché entraîne un autre péché. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu, on pourrait parler, je pense qu'on a tous de toute façon l'exemple de quelqu'un qui va nous venir à l'esprit, mais c'est un petit peu l'effet boule de neige, vous savez. Au début, ça va doucement, mais une situation en entraîne une autre, mais plus on avance dans le temps, plus ça va vite, et à un moment, c'est une chute vertigineuse, en fin de compte. Bon, voilà, la lèpre, c'est le symbole du péché. Ensuite, la lèpre, c'est extrêmement contagieux. Et j'ai envie de vous dire, le péché aussi. Le péché aussi. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Vous le croyez? Bon. Dites-moi, quel est d'après vous, dans la Bible, le livre qui est le plus lu? Ouais, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Vous avez une idée, Catherine? Les psaumes. Oui, tu as raison. Et c'est avec raison que tout le monde, quand on commence à lire la Bible, on aime bien lire les psaumes. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de hasard, hein? Bon. Le livre des psaumes commence par le psaume premier. Ah, je suis fort, hein? Et le premier des psaumes, quel est le premier message du livre le plus lu de la Bible que le Seigneur désire faire passer? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu, parce que c'est plus compréhensible quand on dit les choses comme cela. Donc, le livre de la Bible le plus lu va commencer par nous parler du péché. Et Dieu va dire, mais heureux, et quand je lis ça, excusez-moi, moi ça me fait penser aux béatitudes. Donc, c'est quoi les béatitudes que Jésus a prononcées avant de guérir ce lépreux? C'est heureux. Heureux, heureux. Vous ouvrez le livre du psaume premier, vous tombez sur heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que de la part de Dieu, Ces premiers versets des psaumes, bien sûr, on est tous d'accord, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est importante. Mais je pense quand même que ce sont des textes sur lesquels le Seigneur désire que nous nous arrêtions tout particulièrement. Et pour nous montrer que la lèpre, c'est contagieux et que le péché, c'est contagieux. Et des gens qui pensent qu'ils peuvent allègrement marcher en compagnie des pécheurs et qu'ils ne craqueront pas et qu'ils resteront forts et... Moi, j'ai envie de vous dire, mais quand vous marchez en vêtements blancs au milieu de la boue, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de vous dire, et Sylvain, tu seras d'accord avec moi, quand on va faire du jardin, on ne met pas un pantalon blanc, quoi. Vous êtes bien d'accord? Ben voilà. Et en fin de compte, il y a des choses qui peuvent nous paraître comme ça quand je vous donne un exemple d'une évidence flagrante. Sauf que quand on va basculer du côté spirituel, ben, on a l'impression que pour certains, c'est plus aussi évident. Et vous avez des gens qui finissent par vous dire « Ah ben oui, mes frères, si on vous écoute, en gros, on n'a plus de relations sociales, on ne verra plus personne, etc. etc. » Ah mais je dis « Mais fréquentez les pécheurs si vous voulez. » Vous savez, moi j'ai rencontré des gens qui avaient sincèrement envie d'arrêter de fumer. Mais quand je dis ça, c'est sincère, hein. Mais quand vos amis sont des fumeurs et que vous êtes toute la journée avec eux, quand vous avez quelqu'un qui a envie d'arrêter de boire, mais que les relations, ce sont des gens qui boivent, comment est-ce que la personne va pouvoir arrêter? Donc, pour arrêter, il y a des compagnies qu'il faut arrêter. Et bien évidemment, le Seigneur ne nous invite pas à vivre comme des ermites. Bien évidemment, le Seigneur ne nous invite pas à vivre dans une bulle ultra fermée. J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'aujourd'hui on voudrait faire avec cette espèce de virus, et de vous dire, si on doit l'attraper, on l'attrapera, bulle ou pas bulle. Hein. De toute façon, on ne peut pas, il faut aller dans un hôpital, vous savez, dans les machins complètement en plastique, là, etc. C'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et ça, c'est une leçon pour les chrétiens. La parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention à qui l'on fréquente. Vous savez, même au niveau église, même au niveau des églises. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient absolument rester dans telle ou dans telle église. « Mais frère, on va tenir bon, vous savez, etc. » Puis en fin de compte, moi, je les vois au fil du temps. Bah, petit à petit, ça a pénétré, ils se sont un petit peu assouplis, etc. Puis après, ils finissent par être là dans la masse et puis ils ont fini par tout avaler, quoi. Donc, la lèpre, c'est contagieux, le péché, c'est contagieux, et il faut qu'en tant que chrétiens, nous ne fermions pas les yeux sur cette réalité spirituelle. Ensuite, la lèpre, c'est douloureux et c'est répugnant. Alors, j'ai envie de dire, les douleurs sont internes, ce n'est pas les mêmes que nous. Nous, on va avoir mal quand on se pique, etc. Mais le corps du lépreux est un corps en souffrance. Ce n'est pas j'ai mal au bras, j'ai mal au pied, quelque chose. C'est l'être entier, en fin de compte, qui est dans une souffrance permanente. Et le problème de la lèpre, si vous voulez, justement, c'est cette espèce de gangrène qui est là, il faut absolument soigner, s'occuper d'un lépreux. Et vous savez, si vous rebasculez du côté du symbole de la lèpre avec le péché, le péché va amener l'âme dans des chemins terribles. Il y a toujours un côté de jouissance du péché, un côté qui peut paraître au départ positif, vous savez, etc., là. Mais le péché, c'est comme une pièce, il y a toujours une autre face. Et quand la pièce se retourne, là, il faut payer. Et là, il faut passer à la caisse, et je peux vous dire, ça coûte très cher. Et c'est comme ça que le diable fait. Hein. Donc, le péché, il va attirer, donc avec quelque chose d'attirant. Mais une fois qu'on est tombé dans le travers du péché, eh bien après, les dégâts commencent. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. un pécheur, en fin de compte, n'est jamais heureux. Il ne va être heureux que quand il va pécher. Et dès que le péché est consommé, après, il y a toujours la conséquence qui est là. Faut pas oublier des paroles qui, pour nous, on les a entendues, réentendues, mais quand il est dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Frères et sœurs, c'est pas seulement la mort spirituelle, bien évidemment, c'est la mort spirituelle. Mais c'est pas que la mort spirituelle. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a d'agréable dans la mort ? D'accord ? Et au travers de cela, la parole de Dieu va dire, mais la conséquence du péché, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les larmes, c'est la tristesse, c'est le désarroi, et en fin de compte, le pécheur est loin, loin, loin de s'imaginer que la vie qu'il mène, quand elle peut avoir un aspect positif, de toute façon, irrémédiablement, elle finira un jour par avoir l'aspect négatif du péché, et un jour ou l'autre, eh bien, le salaire, eh bien, bien falloir le sortir. Et ce jour-là, eh bien, la Bible dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents, hein. Mais c'est le salaire du péché. On continue, si vous permettez, sur la lèpre. La lèpre, au temps de Jésus, c'est une maladie incurable. Aucun espoir de guérison. Aucun espoir de guérison. Ce qui fait que vous avez la maladie. Vous allez avoir le contexte spirituel de la maladie. Parce que vous êtes dans un contexte juif et la lèpre, c'est signe de malédiction, c'est signe de jugement de Dieu. Souvenez-vous du frère et de la sœur de Moïse, hein, n'est-ce pas ? Bon, voilà, ça vous montre que c'est vraiment, et ça dans l'esprit d'un juif, c'est ancré. Donc quand un juif voit un lépreux, c'est forcément quelqu'un qui est maudit, c'est forcément quelqu'un qui a fait un péché grave et que Dieu a puni. Donc non seulement il est mis de côté à cause de sa maladie et par sa contagion, mais il est mis de côté à cause d'une espèce de chape de plomb qui va poser sur sa, qui repose sur sa vie comme quelqu'un qui porte une marque spirituelle négative. Et en plus, moralement, si vous vous mettez, par exemple, le même contexte, la femme atteinte d'une perte de sang. Elle aussi, c'est un symbole d'impureté dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle quand même, mes sœurs, que dans le Nouveau Testament, ça ne l'est plus. Je le dis parce qu'il faut, pour certaines, parfois le rappeler. Donc, tout ça, c'est terminé dans le Nouveau Testament. Mais, dans l'Ancien Testament, il y a encore là comme une connotation spirituelle. Mais la Bible nous dit quand même que la femme, elle est allée consulter les médecins, elle a dépensé tous ses sous, et puis les médecins n'ont rien pu faire pour elle. Donc, ça veut dire qu'avant d'arriver à Jésus, elle a quand même eu une démarche un petit peu d'espoir. En disant peut-être qu'en me faisant soigner chez tel docteur, en allant chez tel médecin, etc., peut-être que lui, il va réussir à m'aider. Alors que cet homme-là, dès le départ, c'est même pas la peine qu'il aille courir les médecins, qu'il aille à droite, à gauche, parce que de toute façon, la lèpre, on n'en guérit pas. La seule issue, de toute façon, de la lèpre, c'est la mort. Donc vous allez avoir le contexte physique, vous allez avoir le contexte spirituel et vous allez avoir un contexte moral terrible parce que le lépreux, c'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Aucun espoir possible pour s'en sortir. Et en plus, à cause de la maladie et à cause de la lèpre, ben ces gens étaient exclus. Ils ne pouvaient plus vivre en société. Donc souvent, ils vivaient par groupe. Ils vivaient à l'extérieur des villes, dans des cavernes, dans certains endroits. Et puis les gens venaient leur donner à manger, mais ils ne leur donnaient pas de la main à la main, comme ça. Hein. Ils posaient la nourriture dans un endroit, il fallait que les lépreux attendent que les gens soient repartis pour qu'ils viennent rechercher l'eau ou la nourriture, etc. Il fallait absolument aucun contact. Vous imaginez un père de famille, une mère de famille qui a des enfants, et puis tout à coup on découvre qu'il a la lèpre ou qu'elle a la lèpre. Ça veut dire que du jour au lendemain, elle ne pourra plus jamais embrasser ses enfants. Elle ne pourra plus jamais les prendre dans ses bras, etc. C'est fini. Pour le père, c'est pareil. C'est fini. Donc, on a du mal à imaginer le drame du lépreux. Parce que déjà, chez nous, la lèpre, ça n'existe pas. Aujourd'hui, pour la trouver, elle existe encore beaucoup dans le monde. Mais il faut aller dans certains pays, essentiellement, bien sûr, des pays pauvres encore pour la trouver. Et c'est vraiment quelque chose... Comme nous, on ne l'a jamais vu, on ne réalise pas la condition de vie d'un lépreux. Mais c'est vraiment quelqu'un qui était complètement, complètement exclu de la société. Et bien ça, c'est aussi une des conséquences du péché. Parce que le péché, ça nous sépare de Dieu. J'ai envie de vous dire, pas seulement... Le péché, ça sépare des familles. Le péché, ça sépare des couples. Voilà, et vous pouvez multiplier comme cela les exemples. C'est une des raisons pour lesquelles je comprends pourquoi la Bible me montre, elle me dit, que Dieu a de la haine pour le péché. Parce que c'est vraiment l'inverse de tout le plan de Dieu. C'est l'inverse de tout le plan de Dieu. Dieu, il n'est pas venu pour désunir, etc. Le péché fait tout le contraire de ce que Dieu a voulu faire. Et puis, on arrive à Jésus. Parce que voilà, après cette description de la lèpre, ce qu'elle est, ses conséquences, le symbole du péché, moi, je crois que cet homme, il est venu vers Jésus en se disant, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Même si la foule me chasse, même si les gens me voient, m'envoient des cailloux, enfin, je ne sais pas, cet homme-là, il est quand même venu vers le Seigneur Jésus. Alors, moi, je bénis Dieu pour ce qui est écrit, puis aussi pour ce qui n'est pas écrit. Ben oui, parce que vous savez, ce qui n'est pas écrit, c'est parfois aussi un message. Le gars, il arrive devant Jésus, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez rien de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne devrait pas être là. Ça, on le sait. La première parole qu'il va prononcer, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un, il sait que Jésus est le Seigneur. Il ne pouvait pas faire partie des foules qui suivaient Jésus. Il n'avait pas le droit. Il aurait pu, comme dans la foule, entendre les merveilleuses paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne. Il n'avait pas le droit d'être là. Il n'a pas entendu. Il se dit, mais comment c'est possible qu'un homme comme ça, exclu, banni de la société, il sait qui est Jésus. Il vient vers Jésus. Et dès le départ, il va l'appeler Seigneur. Et vous savez que Seigneur, ça veut dire maître. Et c'est la parole d'un disciple. Hein. C'est la parole d'un disciple. C'est quand même extraordinaire de se dire, mais jusque dans les pires endroits, jusque dans les cavernes, où il n'y a que des lépreux contagieux qui sentent mauvais, et bien jusque dans ces endroits-là, ces gens ont pu entendre parler de Jésus. Ah, c'est extraordinaire ça. C'est de se dire, frères et sœurs, au milieu des juifs de l'époque, il ne pouvait pas y avoir quelque chose de pire qu'un lépreux. Ça veut dire que le témoignage de Jésus, on ne sait pas comment il est parvenu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y est parvenu. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas du tout biblique, mais vous allez le comprendre. Vous avez dans le village une femme qui a pitié des lépreux, qui veut les nourrir, alors qui prépare un repas. Elle arrive dans l'endroit où on doit déposer le repas pour les lépreux, puis en même temps, à côté, elle laisse un Nouveau Testament. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas être biblique, hein, mais comprenez mon image. Puis elle s'en va. Parfois, pour nous témoigner, c'est forcément parler. Moi, je vous dis que non. Témoigner, c'est parfois simplement vivre. Et les gens, en nous voyant vivre, ils vont recevoir le témoignage d'un chrétien, donc le témoignage de Jésus. Parfois, ça va être tout simple. Plutôt que de grands discours, ça va être de remettre à quelqu'un un évangile. Ça va être de remettre à quelqu'un un Nouveau Testament. Et ce qui est triste, c'est que parfois, vous avez des... Et j'en ai rencontré comme ça des chrétiens qui ont l'impression que ça ne sert à rien. Moi, je dis, tu sèmes. Tu sèmes. Et vous et moi, hein, parce qu'on lit, on a quand même entendu des témoignages assez incroyables comme ça. Comment des gens ont-ils pu entendre parler du Seigneur Jésus jusqu'au fond de la caverne là-bas, chez les lépreux, là où personne ne serait allé. Quand j'ai médité ça, ça m'a refait penser à la prison. Hein ? Un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui veut aller. Ouais, mais est-ce que les prisonniers ont besoin de Jésus ? Oui, s'il y en a qui ont besoin de Jésus, c'est eux. Donc s'ils ont besoin de Jésus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille leur parler de Jésus. Il faut y aller. Alors forcément, c'est très spécial la prison. J'ai envie de vous dire, ça ne sent pas toujours très bon, vous savez. Mais il faut y aller. Et le gars, il arrive devant Jésus, il lui dit, Seigneur. Enfin, il ne va pas dire que Seigneur. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il s'approche de celui qui est capable de guérir la lèpre. Aussi bien la lèpre du corps que celle du cœur. Parce que Jésus est non seulement venu pour guérir les corps malades, mais nous savons qu'il est venu aussi nous purifier de tous nos péchés. Et ce qui est impossible pour les hommes, eh bien c'est possible au Seigneur Jésus. Alors j'ai presque envie de dire, cet homme, il a tenté le tout pour le tout. Mais il s'est retrouvé face au Seigneur. Il a fait une démarche. Il a surmonté des obstacles, c'est évident. Il va exprimer sa requête au Seigneur. Et j'aimerais quand même vous dire que les paroles de cet homme sont remplies de foi. Oui ou non ? Ah ben, je ne vais pas vous regarder ce que le gars il a dit. Moi, j'aimerais bien que tous les gens qui viennent pour la première fois dans l'église aient la foi de cet homme. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Il sait, il croit au fond de son cœur que Jésus a la puissance de le guérir. Enfin, frères et sœurs, ça ne vient pas tout seul, ça. Ça ne vient pas tout seul. Il a fallu qu'il entende parler de Jésus qui guérit, pour qu'il ait la foi dans Jésus qui guérit. Si ce n'est pas possible autrement. Alors moi, vous connaissez, quand je me lutte, je me dis, mais Seigneur, c'est quand même fort, ça. Je me dis, comment un lépreux a-t-il pu entendre parler de Jésus qui guérit, alors qu'il n'a pas le droit de rentrer en communication avec les autres? Alors moi, ça, dans mon cœur, ça crée un grand espoir pour les exclus, pour les gens qu'on n'arrive pas à toucher. Vous savez qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à toucher. Moi, je me souviens, quand je travaillais encore dans le monde, je travaillais dans le monde rural, vous aviez des gens avant de mettre le pied chez eux, mes amis. Ça ne se faisait pas comme ça. Mais ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et même les gens qui vivent le plus reclus, le plus loin, etc. Mais le Seigneur les aime. Le Seigneur veut les bénir, le Seigneur veut aussi les exaucer, pourvoir à leurs besoins, le Seigneur veut les sauver. Oh, La difficulté pour vous et pour moi, c'est que souvent on va vers les gens qui nous ressemblent. On ne va pas vers les gens qui nous repoussent. Vrai ou pas? Et vous avez des gens... Il faut y aller, hein? Ben, je me souviens, la première fois que je suis allé en Russie, le pasteur nous a amenés dans une espèce de bidonville. À la sortie, là, de la ville de Vladivostok, c'était des cabanes qui étaient faites de briques et de brocs, là. Enfin, il s'arrangeait pour qu'à l'intérieur, il y ait un mauvais poêle qui fasse du feu, pour que les gens ils aient chaud. Parce que je ne sais pas si vous savez, aux portes de la Sibérie, là-bas, quand il fait froid, moi j'y suis allé, je peux vous dire qu'il fait froid, hein. La mer, ça gèle là-bas, c'est du moins 40, hein. Donc, c'est pas rien. Et en fin de compte, ses frères et sœurs, ils récupéraient les sans-abri dans la rue pour les amener dans ces espèces de cabanes, mais au moins les gens, là, ils avaient chaud, ils leur faisaient de la soupe pour qu'ils aient à manger. Vous en avez certains, ils les recueillaient pour qu'ils puissent mourir dignement. Parce que les gens, ils buvaient. Quand ils sont sous, ils s'endorment. Et le lendemain matin, ils sont gelés. Donc ils ont les pieds gelés, les mains gelées. Et là, je ne vous explique pas. Et nous, on est allés là. On est allés là. Moi, je suis allé, et quand je suis arrivé, il y avait un homme qui avait les pieds dans une bassine avec des herbes. Enfin, ils n'ont rien pour les soigner, etc. Puis, en fin de compte, il n'avait plus de pied. Le pied, il était parti dans la nuit, quoi. Il faut y aller. On a fait une réunion sous la tôle avec le vent qui passait de tous les côtés, etc. Mais j'ai envie de vous dire, mais ces gens-là, Si des chrétiens ne s'occupent pas d'eux, ne leur parlent pas de Jésus, bah, quel espoir est-ce qu'ils vont avoir? C'est les lépreux de la Bible, ces gens-là. Et au milieu de nous, frères et sœurs, dans notre pays de France, au-delà du contexte qui est le nôtre, et ça, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont tout seuls, vous avez des gens qui sont exclus. Combien de fois est-ce qu'on va apprendre que... Ben, on a retrouvé quelqu'un dans son appartement, puis vous avez dit, je ne sais pas combien de mois qu'il était mort, il est tout sec, enfin tout ce que vous voulez, etc. Personne ne s'en est occupé, le pauvre vieux, il était tout seul, il est mort, on ne sait pas quand. C'est régulier. J'ai quand même envie de vous dire, c'est triste. Et pas seulement au niveau humain, et moi je suis convaincu que, en tant qu'ambassadeur de Christ, mais le Seigneur nous appelle aussi, à avoir ce cœur, ben même pour les gens qui sont les exclus de la société, même des gens qui ne sentent pas bon, j'ai envie de dire, etc., parce que ben c'est ce que Jésus a fait. Et alors, quand j'ai préparé la prédication, je ne savais pas dans quel contexte on serait ce soir, mais il nous est dit que Jésus le toucha. Il n'a pas fait que lui parler. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Mais il est écrit aussi, Jésus étendit la main, le toucha et dit. Donc avant de prononcer la parole de guérison, Jésus le touche. Est-ce que vous imaginez ceux qui peuvent être témoins de cette scène-là? Benjamin, si demain t'as le coronavirus, on dit quoi, nous? Surtout, me touchez pas, m'approchez pas, alors, ben, c'est normal. Même nous, vous, moi, on a un rhume, on a fait une gastro, un machin. Moi, dire aux chrétiens, écoutez, moi, je garde mes microbes, quoi. On est, ouais, c'est logique. On a envie de donner autre chose aux autres que ça. J'ai quand même envie de vous dire que la lèpre, c'est pas rien. Et Jésus va le toucher. Dites, frères et sœurs, est-ce que Jésus a peur de la lèpre? Deuxième question. Est-ce que Jésus a peur du coronavirus? Troisième question. Est-ce que vous en avez peur? Parce que, sans être des inconscients, sans faire partie de ces gens qui s'imaginent et qui crient haut et fort, nous on est au Seigneur, il ne nous arrivera jamais rien. Mais il me semble que le chrétien devrait quand même plus vivre dans la foi que dans la peur. Alors je méditais en même temps pour dimanche matin. Nathan me dit, tu vas prêcher deux fois la même chose? Je dis, c'est pas mon genre. Si j'ai deux cultes, il y aura deux prédications différentes. Parfois, faut que je le dise trop, il y en a, ils vont vouloir venir aux deux autrement. Alors. Mais quand même, on est quand même censé être des hommes et des femmes de foi, non? Comme je dis, pas des inconscients, on en connaît hein, des gens comme ça, non, mais on est entre nous. Et vous ne croyez pas que quelque part, si on est vrai, on pourrait peut-être faire un petit peu la prière des disciples. Vous connaissez la prière des disciples? Ouais. Seigneur, augmente-nous la foi. Alors je ne vais pas vous faire ce soir la prédication de dimanche quand même, mais au fond de moi, je peux me tromper. Enfin, quand il s'agit de la parole de Dieu, il me semble quand même que le Seigneur nous garde aussi. Pas seulement d'accidents de voiture. Oui, il nous garde, hein. Mais, et Jésus, il n'a pas peur. Il va toucher le lépreux. Alors, c'est pas vous, c'est moi. Demain, réunion d'évangélisation. Amen. Au moment de la position des mains, vous avez un coronavirus qui s'amène en face de moi et qui me dit, Gilles, prie pour moi.
D'accord.
Voilà, il est écrit dans la Bible, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, comprenez la démarche de la foi. Ma démarche de foi, c'est avec mon épouse de dire, on va passer les clenches avec une lingette désinfectante, parce que c'est des précautions normales. Ma démarche de foi, c'est de dire un jour, si je suis malade, je ne vais pas vous embrasser. Je ne vais pas vous serrer la main, je n'ai pas envie de vous filer mes microbes, etc. Puis en même temps, c'est de dire, Seigneur, si les gens viennent pour être guéris, que je prie pour eux, ce n'est pas pour que moi, demain, je sois malade, quoi. Ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends plus. On est bien d'accord? J'ai eu cette même pensée, par exemple, avec la Sainte Seine. En disant, mais soit je crois que ça va être un repas de bénédiction, et moi, dans ma réflexion, vous me connaissez assez, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais seulement un moment penser qu'un repas de bénédiction pourrait me rendre malade? J'ai presque envie de vous dire, si on a des pensées comme celle-là, autant pas la prendre la Sainte Seine, hein, là, c'est même pas se poser la question. C'est... Alors voilà, c'est dans des circonstances comme celle-là, avoir cette position qui va être une position équilibrée, une position qui doit, dans nos cœurs, dans nos vies, j'en suis quand même convaincu, frères et sœurs, avoir pour base la foi. Jésus, lui, le lépreux, il l'a touché. Est-ce que Jésus est devenu lépreux? Non. Est-ce que le lépreux a été guéri? Oui, voilà. Ben, moi, je crois ça. Et je crois que le modèle encore aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, je crois qu'effectivement, il nous faut de la sagesse. Parce que c'est quand même une saleté de maladie. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On vit dans un monde, il y a des autorités, il y a des lois, on est dans un lieu public, on a des responsabilités, même légales, etc. Donc je crois que c'est normal qu'il nous faille avoir un bon témoignage. Oubliez quand même pas qu'en France, vous avez une grande partie du virus qui a été répandu, grâce à qui? Grâce à des évangéliques. Donc il me semble quand même aujourd'hui que bah, c'est quand même à nous de montrer un parfait exemple dans ce domaine-là. Puis d'un autre côté, moi, personne ne m'enlèvera ma foi. Autrement, demain, je ne prie plus pour les malades. C'est aussi simple que ça. Jésus le touche. Alors, Jésus n'a pas peur. Imaginez l'intouchable touché. C'est ça. C'est le lépreux, c'est l'intouchable. Et Jésus le touche. Alors moi, Jésus n'a pas encore parlé, je me mets à sa place. Qu'est-ce que ça a bien pu faire dans la vie de cet homme? Et puis, il va y avoir cette parole de Jésus, avec cet attouchement de Jésus, Jésus le toucha. Et vous savez, ça me fait encore penser à la femme guérie de la perte de sang, parce que dans ce contexte-là, il nous est dit, une force est sortie de lui. Moi, je crois que c'est ce qui s'est passé aussi avec le lépreux. Jésus l'a touché. Jésus va prononcer cette parole, « Je le veux, sois pur. » Et Jésus va communiquer, en fin de compte, la guérison, la bénédiction à cet homme. Alors, bon, les conséquences, je vous laisse les imaginer. Pour lui. Alors, il y a parfois des choses qui sont surprenantes dans la Bible, parce que vous n'avez rien trouvé de surprenant, vous, dans ce qu'on a lu, avant que je vous lise le livre. Manifestement, non, vous me regardez bizarre, là, comme ça. Alors, verset 1, ça se termine par quoi, le verset 1 ? Une grande foule le suit, et voilà le gars qui arrive. Donc moi, je me dis, la foule, elle est là. D'accord ? Et Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Ah, Seigneur, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Seigneur, tu lui dis de rien dire, et puis regarde, tout le monde est là. Faut savoir, faut que ça reste secret. Mais si tu voulais que ce soit secret, il aurait fallu que ça se passe en huis clos, quoi. Je veux dire, toi tout seul avec lui, mais pas avec la foule, pas avec la foule qui était là. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas le détacher du reste. Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande. Pour que ça leur serve de quoi ? De témoignage. Ah, c'est aussi un témoignage, mais ce n'est pas le même. Nous, bons pentecôtistes, on sera dit, après un miracle pareil, va et raconte partout ce que le Seigneur a fait. La terre entière doit savoir. Et oui, je crois que la terre entière doit savoir. Et que le témoignage, c'est de raconter partout ce que Dieu a fait. Mais j'ai envie de vous dire, pas seulement. Parce que le témoignage de cet homme, c'est qu'après avoir été béni par Dieu, le Seigneur lui donne rendez-vous dans le temple. Dans la maison de Dieu. Figurez-vous que c'est là qu'on rencontre le sacrificateur. Et le Seigneur l'attend. Oh, c'est bizarre, c'est écrit dans le Nouveau Testament, ça. Le Seigneur l'attend dans l'offrande. Que part, le Seigneur lui dit, ben voilà, tu as été béni. Donc tu vas aller voir le sacrificateur, vous savez qu'il n'y a que lui qui pouvait attester qu'un lépreux était guéri. Mais le sacrificateur sait, dans la maison de Dieu, c'est dans le temple qu'on le trouve, Et tu ne vas pas seulement aller trouver le sacrificateur. Tu vas aller présenter l'offrande que Moïse a prescrite, et ça, ça va leur servir de témoignage. Pas seulement raconter ce que tu as vécu, mais montrer aujourd'hui que tu es dans la maison du Seigneur et que, suite au miracle, en fin de compte, tu es en train de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Et ce que beaucoup de chrétiens ont oublié, c'est que le témoignage, c'est pas seulement raconte ce que le Seigneur t'a fait, mais le témoignage, c'est aussi fais ce que Dieu a demandé de faire dans sa parole. Et ça aussi, ça servira de témoignage. Eh oui. Et comme je vous l'ai souvent dit, les gens nous regardent. Vous savez que les gens savent qu'on est à l'église. Ils nous ont vus. Ce soir, ils vont passer, ils vont dire « Ah, l'église évangélique, elle est ouverte malgré le machin. Ben, » je dis « Oui, nous, tant qu'on ne nous interdit pas de nous rassembler, on est là. Gloire à Dieu. » Frères et sœurs, le témoignage d'une vie vécue, comme la parole de Dieu demande qu'elle soit vécue, ça interpelle, ça sert de témoignage. Et ainsi les âmes sont touchées. Alors en conclusion pour nous ce soir, une fois de plus j'ai envie de dire, ça doit nous rendre très humbles. Ça doit nous amener à comprendre que de toute façon, tout vient de Jésus, parce que systématiquement on va avoir en face de nous l'impossible. Les gens, ni vous ni moi, nous ne pouvons les changer. J'ai même envie de vous dire, les gens, ni vous, ni moi, nous ne pouvons les convaincre. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous pouvez parler, dire, faire tout ce que vous voulez. En fin de compte, on réalise que tout vient du Seigneur. Ensuite, j'ai quand même envie de vous dire, ça doit nous rendre humbles, parce que l'Évangile, c'est simple. Hein ? Jésus le touche. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas compliqué. La parole de Jésus, c'est pas une prédication qui aura duré trois quarts d'heure. Je le veux, sois pur. Amen. Tac, terminé, le gars debout. Je dis donc, au moins ça c'est quelque chose d'efficace. Ça veut pas dire qu'on ait des prédications qui durent cinq secondes. On est bien d'accord. Et ça suffit pour que la vie d'un homme comme ça, en un instant, elle soit bouleversée. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, on a encore à cœur que la vie des gens soit bouleversée ? Ben, vous mettez votre regard dans la parole de Dieu, et après, ensemble, on se dit, de quoi on a besoin pour que la vie des gens soit bouleversée ? De Jésus. Mettons-les en contact avec le Seigneur Jésus, et j'ai envie de vous dire, laissez Jésus se débrouiller. C'est lui qui va toucher les gens. Comment il va le faire ? C'est tellement surprenant. Vous savez, il y a des choses, bon, mes témoignages, forcément, on va dire, ils sont un peu redondants, hein, mais il y a des choses qui vous marquent. Moi, il y a un truc, franchement, qui m'a marqué. J'ai eu un jour, dans une chrétienne, dans une église dans laquelle j'étais, mais c'était une grosse tête. À l'époque, elle était directrice de la Banque de France. Je vous explique pas, c'était pas n'importe qui, etc. Donc elle venait à nos réunions d'évangélisation. Et puis franchement, un jour, j'ai vu cette femme changer. Je me suis dit, c'est plus la même, quoi. Alors un jour, j'ai demandé à la voir, j'ai discuté avec elle, et effectivement, dans l'échange pastoral que j'ai eu avec elle, elle s'était convertie. Elle venait aux réunions, etc., et avec les réunions, elle s'est convertie. Alors moi, je suis toujours curieux. Elle s'appelait Marie-France, j'ai dit, écoutez, il faut que vous m'expliquiez comment vous êtes convertie, à quelle réunion, etc. Et il y a des trucs, vous ne pouvez pas l'oublier. Hein. Et elle me dit, ben voilà, Gilles, elle me dit, c'était le jour où le Tour de France passait dans la ville. Hein, Tour de France passait, ben, oui, oui, je m'en souviens et tout. Ben, vous nous avez dit que le Tour de France, ben, c'était comme à l'arrivée, vous aviez les coureurs, puis vous aviez les gens qui étaient de l'autre côté, derrière les barrières. Ben, ceux qui gagnaient, c'était les coureurs, les autres, c'était des spectateurs, ils ne gagnaient rien. Elle dit, ce jour-là, j'ai compris que je n'allais pas au ciel. Directrice de la Banque de France, avec un cerveau à 5 étages, tout ce que vous voulez, elle s'est convertie avec le Tour de France. Je ne vais pas faire venir les cyclistes dans la cour de l'église demain. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Mais une image. Voilà, le Tour de France passait, ben je dis, voyez-vous, les cyclistes, eux, ils courent. Voilà, c'est comme les chrétiens qui vont au ciel, puis vous avez les autres qui regardent. Alors, il y a les inconvertis qui étaient là, ben je dis, vous êtes à la Réunion, vous nous regardez. Mais vous ne gagnez rien. Elle a compris. J'ai quand même envie de vous dire, ça vous rend humble. Parce que des fois, on prépare, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Vous savez que je prends un grand plaisir à préparer la parole de Dieu, mais on prépare des messages, je pourrais vous montrer que mes points, mes machins, etc. Vous sortez une image au milieu, puis c'est avec ça que la personne est convertie. Béni soit Dieu. Parce que l'œuvre, c'est Jésus qui l'a fait. Donc il ne faut pas aller chercher, encore aujourd'hui, frères et sœurs, il ne faut pas aller chercher des choses compliquées. Ce qu'on a besoin, moi ce que j'ai besoin quand je prêche, c'est d'être inspiré. C'est tout. Et si je suis inspiré, ben c'est le Seigneur qui va parler aux gens, et il va leur parler par un cantique, il va bien sûr parler par la parole, par une image. On ne sait pas comment le Seigneur va toucher les gens. J'ai envie de vous dire, on s'en moque. L'essentiel, c'est qu'il les touche. N'est-ce pas? Et voilà. Alors, moi, je dis tout ça, ça doit nous rendre tellement humbles. Et ça doit quand même nous rappeler que c'est simple, en fait. Et tout ce qu'on voit, je ne sais pas si vous remarquez, parce que bon, ça fait quand même quelques vendredis, hein, on est arrivé déjà à la 9e prédication sur les miracles de Jésus. Je dis, wow, on connaissait mes séries, mais je dis, Seigneur, quand même, à chaque fois, tu présentes les choses, on a l'impression que c'est tellement naturel, c'est tellement simple. Et moi, d'un autre côté, je dis, comme on a le don de compliquer les choses, nous. Ben, mes frères et sœurs, il faut qu'on revienne. Et que vous, comme moi, on apprenne à revenir à la simplicité de cet évangile, à la simplicité de la foi, d'amener les âmes à Jésus, que Jésus les touche, que Jésus les bénisse, que Jésus les guérisse, que Jésus les sauve, que Jésus les enlève de leur lèpre, de leur péché, purifie leur vie et leur donne véritablement une vie nouvelle. Après, frères et sœurs, ça c'est du Gilles tout craché, mais j'écris, mais comment les chrétiens vont-ils pouvoir parler de guérison s'ils ont peur de tomber malade? Je fais encore ça, là. Hein? On est d'accord? On ne peut pas d'un côté témoigner aux gens que Jésus guérit et vivre dans la trouille de tomber malade. Il faut qu'on soit vrai. Ou alors on s'approche du Seigneur en disant, Seigneur, ma foi c'est des cacahuètes, je ne sais pas, fais-moi quelque chose. Mais voyez-vous, je veux dire, il faut qu'on soit vrai devant le Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Alors comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, il n'y a aucun mal à respecter les consignes des autorités. On le fait et on le fera. Mais au fond, on est chrétien. On est au Seigneur, on a foi en lui et moi je crois que et je prie pour ça, que dans ces temps, je promets quand j'ai regardé ça, mais je dis quand même, Seigneur, on médite ces choses-là dans un contexte particulier. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, je trouve que ça prend une connotation peut-être toute particulière, ça, en ce moment. Jésus qui va toucher le lépreux. Et qui sait si demain, on ne va pas être confronté à des gens morts de peur. Parce qu'ils vont avoir attrapé le virus, parce que ceci, cela, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les fuir? Parce que nous aussi, on va avoir peur de l'attraper? Ou, quelque part, on va leur dire, mais vous savez, mon Seigneur, s'il a été capable de guérir le lépreux, ben, moi je crois que le Seigneur est capable de guérir aussi les gens du coronavirus, vous ne le croyez pas? On prie ensemble?